démarrerait.
Oui.
Tu leur dis de s'asseoir et que tu appelles le premier intervenant.
Oui. Ah, je rappelle pas ça.
Ah si si, t'as oui. Tout ça. Oui.
Alors, bonjour mes camarades. Donc, on va ouvrir cette seconde journée de congrès. Si vous pourriez, s'il vous plaît, vous asseoir. Donc, on va demander aussi de respecter, s'il vous plaît, la salle, parce qu'il y a eu quelques couacs hier. Donc, de respecter le travail des bénévoles qui ont mis en place cette journée pour pouvoir ce congrès, pour pouvoir nous accueillir. De rester jusqu'au bout, dans le but de respecter toutes les interventions. Et sachant qu'il y en a 200 aujourd'hui, de bien respecter le temps, donc les 4 minutes à chaque intervention. Concernant les inscriptions aux résolutions, vous pouvez les faire grâce au QR code qui est sur le matériel que vous avez reçu. Donc, on va appeler le premier camarade Yann Le Pêcheur, FO Valeo Serrois, et on demande à David Lecomte de se préparer. Alors mes camarades, il y a Yann qui va prendre la parole. On vous demandera s'il vous plaît d'écouter ce qu'il a à vous dire. Merci.
Chers amis FO de la force ouvrière, je vous transmets le salut fraternel du syndicat des métaux FO Valeo Sergy et de tous les syndicats et sections de FO Valeo France. Notre syndicat est né il y a 6 ans à Sergy, sur un siège social et site de recherche et de développement composé majoritairement d'ingénieurs et cadres, de managers, de directeurs. Et nous sommes maintenant de nombreux syndiqués parmi toutes les classes sociales de notre site, où nous faisons 60% de représentativité. Tous les salariés, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle, ont besoin d'être accompagnés par un syndicat, car le travail devient précaire pour tout un chacun. Et le seul syndicat qui défend les intérêts de tous les salariés, leur emploi, leur fiche de paye, c'est FO. Le troisième collège le sait, et nous devons continuer à leur montrer que FO est le syndicat le plus sérieux, proactif, décisif, et accélérer le développement de notre syndicat dans cette catégorie professionnelle. Mes chers amis, l'heure est grave. Le secteur automobile est largement menacé en France. FO alerte et combat cette situation depuis longtemps déjà. Et le combat doit continuer et s'intensifier. La défense de notre industrie est une priorité pour sauvegarder les nombreux emplois en France et en Europe. Chez Valeo, les plans sociaux se sont multipliés ces 3 dernières années. Et nous ne sommes pas au bout du chemin. L'Asie, et particulièrement la Chine, sont en avance sur les technologies du véhicule électrique. Il faut leur montrer que la France est le pays dans lequel ils doivent fabriquer leurs véhicules. J'invite notre secrétaire général à leur montrer qu'en France, les partenaires sociaux et principalement FO sont une force pour l'industrie. Que les salariés syndiqués construisent la réussite des entreprises qui s'y implantent. Pour défendre notre industrie automobile, nous devons être supportés par les pouvoirs publics français et européens. L'Europe doit protéger notre industrie européenne. Quand je parle de protection, cela comprend le développement et la fabrication des véhicules électriques et électrifiés et leurs contenus réalisés par les équipementiers et les fournisseurs. Quand je parle de protection, je parle de nos emplois en France, pas au Maroc, ni au Canada, ni pas plus en Turquie. L'Europe doit protéger la production et les développements au sein de l'Europe des 27. Je compte sur notre Confédération pour porter haut ce message et au sein des instances décisionnelles. L'intelligence artificielle est une révolution technologique. Elle investit nos métiers, nos usines et notre vie, qu'on le veuille ou non. EFO doit être à la pointe de cette technologie. EFO doit accompagner le développement de nos compétences et de nos métiers pour faire en sorte que cette technologie soit une opportunité de développement de l'emploi en France. La Confédération doit conduire cet objectif comme essentiel dans la prochaine mandature. Mes amis, j'ai rejoint EFO il y a 20 ans. Pas un jour je ne l'ai regretté. EFO porte les valeurs auxquelles je suis attaché, les valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité, laïcité, la défense du service public, de la sécurité sociale et de toutes les structures assurant les droits égaux aux citoyens, l'indépendance à tout parti politique et à toute religion. Nous sommes tous ensemble, riches de nos différences qui font notre force. Et ces valeurs ont été portées chaque instant par notre secrétaire général auquel je renouvelle ma confiance. Merci pour votre écoute. Vive la Confédération, vive la Fédération des métaux, vive EFO !
Alors, que se prépare Benjamin Delrus et HU d'Angers ?
Camarades, je vous transmets le salut fraternel des syndicats du DFO de l'heure. Je suis mandaté aujourd'hui par 10 syndicats pour porter la voix de nos camarades. Mes camarades, depuis 120 ans, la Charte d'Amiens éclaire notre combat pour un syndicalisme indépendant, porteur de la lutte de classe et d'internationalisme au service de l'émancipation des travailleurs. Face aux politiques d'austérité, face au nationalisme qui monte partout dans le monde, face aux lois qui fragilisent notre représentativité, ces principes restent notre boussole. Notre force, c'est notre indépendance, mes camarades. EFO n'est ni un parti, ni un relais d'extérieur, d'intérêt extérieur. Nous refuserons toujours toute emprise politique, car notre liberté d'agir et de penser est la condition même de notre crédibilité. Nous devons rejeter tout entrisme politique d'où qu'il vient. Or, il ne cesse de s'accentuer dans notre Confédération. Et l'absence de réaction pour rappeler les statuts de notre Confédération laisse à penser à une forme de cautionnement de ces dérives. Aujourd'hui, mes camarades, notre syndicalisme est menacé de toutes parts. Menacé de l'extérieur, par les lois de représentativité, les lois travail, qui ont affaibli notre capacité de défendre les travailleurs. Mais aussi, elle est menacée de l'intérieur, par ceux qui cherchent à nous détourner de nos origines, du syndicalisme confédéré qui a 130 ans et de la CGT-FO née en 48. Chers camarades, ce congrès doit être l'occasion de réaffirmer notre identité, révolutionnaire dans nos aspirations, réformiste dans notre pratique. Le texte que nous portons depuis le 10 mars et que nous avons adressé au Comité confédéral national et au secrétaire général et ce qui s'intitule « Pour construire ensemble l'avenir de la CGT-FO, restons indépendants et déterminés » a recueilli à ce jour plus de 170 soutiens. Nous aurions aimé, mes camarades, vous le distribuer dans ce congrès, mais nous avons essuyé un refus catégorique du Bureau confédéral. C'est regrettable et c'est surtout un mauvais signal. Mes camarades, malgré tout, il est à votre disposition là-bas à droite. On en a beaucoup d'exemplaires. Si ça vous intéresse, vous pouvez venir en récupérer et vous pouvez éventuellement soutenir le texte s'il vous convient. Car mes camarades, dans ce texte, nous portons aujourd'hui et nous continuerons à porter demain tout ce que nous mettons en avant face aux inquiétudes qui sont en plus nombreux à partager et qui subsistent encore aujourd'hui. Mes camarades, ce texte réclame un retour à une véritable démocratie interne, une clarté sur notre orientation et nos stratégies d'action, et la construction collective d'une dynamique pour assurer l'avenir de la CGT-FO. Cela passe par des instances consultées, avant toute signature engageante. On nous dit que c'est déjà le cas, mais les faits montrent le contraire. Beaucoup de camarades ont été choqués par ce qui s'est passé au congrès de 2022. Depuis, les dysfonctionnements se sont accentués. Un débat démocratique interne de plus en plus inexistant, des stratégies incompréhensibles, une lisibilité, une visibilité de plus en plus faible, des prises de position et des signatures d'accords non comprises, partage de la valeur qui n'a jamais été nos revendications, soutien aux niches parlementaires, y compris celles de l'extrême droite, lors du meeting à la Mutualité 2024, signature du texte en décembre avec le MEDEF, appelant à l'esprit de responsabilité, affichage de plus en plus fréquent avec ceux qui portent une société de rejet de l'autre. Le dernier accord sur l'assurance chômage, reniant les droits et ruptures conventionnelles, lui-même, mes camarades, retoqué par le Parlement la semaine dernière, est le symbole de ces incohérences. Beaucoup de militants s'interrogent sur ce manque de clarté. Je suis donc mandaté aujourd'hui pour voter contre le rapport d'activité. Je voterai favorablement pour le rapport de trésorerie. Mes camarades, ne nous trompons pas. Ce congrès est une étape cruciale pour poser ces débats. Il est urgent de nous emparer de ce moment pour faire émerger des propositions concrètes, renforcer notre transparence, notre efficacité et notre capacité à répondre aux attentes des travailleurs. Une nouvelle équipe confédérale va être élue à la fin de la semaine.
Il faut que tu clôtures, mon camarade.
C'est terminé quasiment. Elle doit prendre en compte nos propositions pour retrouver une dynamique positive et redonner,
donc tu penses à clôturer, mon
redonner
camarade, on a beaucoup
confiance aux militants et aux militantes. À nous, mes camarades, de construire ensemble un syndicalisme véritablement indépendant, démocratique et combatif, capable de porter l'espoir et l'émancipation pour les générations futures. Comme le disait Blondel, mes camarades, quand on a un droit, on n'a rien à demander à personne, on le fait respecter. Alors, face à l'austérité, au nationalisme...
Il faut clôturer, mon camarade,
nous devons
sans intervention,
faire en sorte,
faut penser
camarades.
À tout le monde. Il faut partager le temps.
À nous de faire entendre notre voix. Vive la Charte d'Amiens, toute la Charte d'Amiens. Vive la Confédération Générale du Travail, Force Ouvrière.
Que se prépare Nadia Jacot, propreté 69.
Chers camarades, je vous apporte le salut fraternel des hospitaliers du CHU d'Angers. Ils ne font que détruire l'hôpital. Nous le disons depuis des années, mais force est de constater que la situation ne fait que s'empirer. Mes camarades, chaque hiver, l'hôpital est incapable de répondre aux besoins de la population. Et cette année encore, ce n'est pas la grippe la responsable de cette situation. Ce sont les politiques d'austérité dans la santé, les milliards d'euros de coupes budgétaires. D'ailleurs, on apprend qu'aujourd'hui, ils devraient annoncer 2 milliards de gels supplémentaires dans la santé. C'est la circulaire Bayrou, ses plans de performance, son efficience, les dizaines de milliers de lits fermés. Le manque de médecins, la pénurie organisée, la dernière loi de financement de la sécurité sociale du gouvernement Macron-Lucornu amplifie cette logique. Derrière ces chiffres, c'est toute la population qui subit la baisse de l'offre de soins et ce sont les hospitaliers qui subissent des conditions de travail insupportables. Cet hiver, dans mon établissement, entre décembre et janvier, 3 patients sont décédés à l'accueil des urgences sans avoir eu la chance d'être vus par un médecin. Ce sont ces patients qui attendent 14 hier, depuis 10 jours qu'un lit se libère en psychiatrie, ils sont dans les couloirs des urgences. C'est encore en janvier, un jeune de 23 ans qui a passé 21 jours attaché à un lit contentionné dans les urgences, faute de place en psychiatrie. Aucun hospitalier. Personne n'accepte cette situation. En juin dernier, les hospitaliers du CH Laval, dont je salue les camarades présents aujourd'hui, avec leur syndicat dans l'unité, avec le soutien de la population, par la grève, ils ont mis en échec la suppression de 100 postes. Ils ont contraint le ministre de la Santé à se déplacer dans leur établissement. Bravo les camarades! En septembre dernier, à l'appel des unions départementales de la région et des groupements départementaux, nous étions 2000 à manifester à l'Agence régionale de santé pour exiger la fin des plans d'économie, des bras, des lits, mes camarades. Et la Confédération était présente. Je les en remercie. Le 19 janvier, ce sont les collègues des urgences à Angers qui sont entrés en grève pour obtenir des lits, des moyens supplémentaires contre la barbarie dans leurs services. Par la grève, avec le syndicat FO, ils ont obtenu des moyens supplémentaires. Mes camarades, on ne peut pas accepter les coupes budgétaires qui conduisent à la barbarie. On ne peut pas accepter que les hôpitaux soient mis au pas de l'austérité quand dans le même temps, ce sont des milliards qui sont injectés dans l'armement. Alors mes camarades, j'ai une proposition à faire au Congrès. Enfin, mon syndicat a une proposition à faire au Congrès. Que la Confédération engage une campagne nationale pour que les milliards qui sont injectés dans l'armement et la guerre soient remis dans les services publics, dans l'hôpital, dans la sécurité sociale. Mes camarades, c'est la place et c'est le rôle de notre organisation syndicale indépendante, fidèle à ses valeurs, attachée à la sécurité sociale, attaché au progrès social, de prendre une initiative d'ampleur en ce sens, qui par ailleurs permettrait à nos syndicats et à notre organisation de se mettre en avant, y compris dans le cadre des élections professionnelles à venir. Plus que jamais, des bras, des lits, de l'argent pour l'hôpital et pas pour les rafales. Vive la Confédération Générale du Travail, force ouvrière!
Alors que se prépare Nora Nidam, FO Sécurité Sociale 75.
Bonjour camarades, bonjour le secteur de la propreté et bonjour la fête CFO. Nous ne sommes pas réunis ici pour éviter les sujets qui dérangent. Nous sommes ici pour dire les choses telles qu'elles sont. Dans la propreté, plus qu'ailleurs, on sait ce que ça veut dire travailler ensemble. Sur un même site, vous avez des salariés de différentes nationalités, en CDI, en CDD, en intérim, en sous-traitance. Ils commencent à 5 heures du matin et d'autres finissent tard le soir. Ils sont invisibles, essentiels, mais trop souvent méprisés. Quand une entreprise de propreté répond à un appel d'offres, elle casse les prix. Et pour casser les prix, elle fait quoi? Elle tire les salaires vers les bas, elle réduit le temps d'intervention, elle multiplie les contrats courts. Le problème est bien un système organisé pour mettre les travailleurs en concurrence. Et la réalité est là. Le monde du travail attaqué, les droits reculent, les conditions se dégradent, les inégalités explosent et pendant ce temps-là, on essaie de détourner la colère des travailleurs vers de faux coupables.
Si vous pourriez écouter, s'il vous plaît, mes camarades, pour respecter le temps de parole de la camarade, merci.
On voudrait faire croire que le problème, ce serait le voisin, le collègue, l'étranger, le plus précaire que soit. Nous le savons, nous, ce n'est pas vrai. Le problème, il est du côté de ceux qui exploitent, ceux qui précarisent, ceux qui organisent la mise en concurrence des travailleurs. Et face à cela, une seule réponse est possible, la solidarité, pas la division. Alors oui, je vais le dire clairement, les idées d'extrême droite, les idées autoritaires sont incompatibles avec le syndicalisme. parce qu'elle divise les travailleurs, parce qu'elle désigne des boucs émissaires au lieu de s'attaquer aux vraies responsabilités, parce qu'elles ont toujours, partout, combattu les syndicats libres et les conquêtes sociales. Un syndicat qui laisse prospérer ses idées en son sein se fragilise lui-même. Notre rôle n'est pas de dire pour qui voter, mais notre rôle, c'est de dire pourquoi nous combattons et contre quoi. Nous nous battons pour l'égalité des droits. Nous nous battons pour la dignité de tous les travailleurs. Nous nous battons pour des droits collectifs forts, pour des protections, pour des solidarités. Et nous combattons ceux qui divisent, ceux qui opposent et ce qui affaiblit les travailleurs. Camarades, il faut être à la hauteur de la période. On ne peut pas défendre le jour et fermer les yeux le lendemain sur les discours qui s'opposent. On ne peut pas revendiquer des droits collectifs et tolérer des idées qui, partout où elles ont gagné, ont détruit ces mêmes droits. Alors oui, il faut le dire, il faut le porter, il faut l'assumer devant les salariés. La solidarité n'est pas négociable, l'égalité n'est pas négociable, le refus des divisions n'est pas négociable. L'extrême droite progresse, y compris dans le monde du travail, y compris parfois dans nos équipes, et oui, parfois même dans nos rangs. On ne peut pas faire comme si de rien n'était. Elle oppose les salariés entre eux, Français contre étrangers, titulaires contre précaires, travailleurs du privé contre agents du public. Elle détourne la colère légitime vers de faux coupables. Mais la réalité, nous la connaissons. Quand les salaires stagnent, ce n'est pas à cause des travailleurs émigrés. Quand les conditions de travail se dégradent, ce n'est pas à cause des plus précaires. Quand les services publics reculent, ce n'est pas à la faute des collègues. Et pendant qu'on désigne des boucs émissaires, on laisse ces logiques prospérer. Il faut rappeler une vérité simple. Partout où l'extrême droite est arrivée au pouvoir, les travailleurs ont perdu. Les syndicats ont été attaqués, contrôlés, parfois interdits. Les libertés ont reculé, les droits collectifs ont été affaiblis. Ce n'est pas une opinion, c'est une réalité historique. Nous ne pouvons pas être neutres face à cela. La neutralité dans ces moments-là, ce n'est pas de l'équilibre, c'est un abandon. Nous devons être lucides.
Il faut clôturer, ma camarade, s'il te plaît.
Oui, je conclue bientôt. Les idées d'extrême droite, les idées autoritaires ne sont pas des alliés du monde du travail. Elles s'attaquent à ce que nous sommes. Elles remettent en cause les libertés syndicales, la capacité à s'organiser, à revendiquer, à contester. Quand on est unis tous ensemble, sans distinction, on gagne, on arrache des augmentations, on améliore les conditions de travail, on impose le respect. C'est ça notre force et c'est précisément ce que l'extrême droite affaiblit. Dans la période actuelle, il faut du courage, le courage de dire les choses, le courage de ne pas céder à la facilité, le courage de défendre partout l'unité du monde du travail. Notre syndicalisme et notre rôle est exigeant.
Vraiment que tu clôtures, ma camarade.
Une seconde. Dans la période actuelle, plus que jamais, nous devons être à la hauteur de ce que le syndicalisme représente. Un rempart contre les divisions, un outil d'émancipation et une force au service de tous les travailleurs.
Il faut absolument que tu clôtures. On a beaucoup d'interventions, il faut absolument que tu clôtures. Que se prépare Éric Keller, Métaux de Lyon.
Chers camarades, je vous apporte le salut fraternel du syndicat des employés et cadres des organismes sociaux de Paris, ainsi que celui des 7 autres syndicats des organismes sociaux d'Île-de-France qui constituent la Chambre syndicale. La Chambre syndicale continue de résister dans une situation marquée par une offensive générale contre la Sécu de 45 au travers les conventions d'objectifs et de gestion. Nous avons enregistré pas moins de 500 nouvelles adhésions depuis le dernier congrès confédéral. Et à l'occasion des récentes élections des représentants du personnel dans les conseils, Force ouvrière a renforcé sa première place dans les CEPAM d'Île-de-France avec 10 sièges sur 24 et 33,81% des voix. Cette progression nous permet d'être présentés dans chacune des 8 CEPAM d'Île-de-France avec une mention spéciale pour les camarades de la CEPAM 91 qui, avec 73,45% des voix chez les employés et 52,66% chez les cadres, remporte l'intégralité des 3 sièges au Conseil. Ces résultats ne sont pas le fruit du hasard, mais liés à notre présence sur le terrain. Différentes grèves catégorielles ont éclaté dans nos organismes, toujours avec force ouvrière, avec la particularité de lier les revendications du personnel aux services rendus aux assurés. À titre d'exemple, par la grève, les agents des accueils physiques de la CEPAM de Paris ont obtenu le maintien des accueils alors que la coge maladie était celle de leur liquidation. La mobilisation des collègues est un obstacle au plan de destruction de la Sécu voulu par le gouvernement. Le budget de la Sécu, c'est 643 milliards d'euros, soit deux fois plus que le budget de l'État. La fraude fiscale, c'est 100 milliards. La fraude sociale, c'est 13 milliards, dont 7 à 9 milliards du fait du patronat, qui trouve que les 88 milliards d'exonérations de cotisations sociales ne sont pas encore suffisants. Mais ce n'est pas au patronat que le gouvernement s'en prend. Non, il faut s'en prendre aux malades, et s'ils sont bronzés, alors là, c'est Byzance. Camarades, il faut rétablir la vérité. Les bénéficiaires de l'aide médicale d'État ne mettent pas en péril les finances de la sécurité sociale. La dépense des arrêts maladie n'a pas explosé. Elle représente 11 milliards d'euros, soit 1,3% du budget de la Sécu. Et les arrêts maladie sont justifiés. En 2024, sur 1,2 million d'arrêts contrôlés par le service médical, aucun arrêt injustifié n'a été relevé. L'augmentation des arrêts de travail est due aux 60% au vieillissement de la population active et à 40% aux dégradations des conditions de travail. C'est pour ça que l'existence du service du contrôle médical est un obstacle à la casse de la sécurité sociale. Bah ouais, comment faire des économies sur la maladie avec un service du contrôle médical dont la seule boussole est l'état de santé de l'assuré et dont les décisions s'imposent aux CEPAM qui gèrent les budgets ? C'est impossible. Donc il faut se débarrasser du contrôle médical et c'est dans ce contexte que les services médicaux étaient intégrés dans les CEPAM au 1er octobre 2025. Cette intégration ouvrant la voie à la remise en cause des ALD, arrêts maladie et accidents du travail dans la loi de financement de Sécu 2026. Et fort de cela, le gouvernement remet la gomme sur les arrêts maladie. Dans le cadre de la loi contre la faute sociale, il veut donner les pleins pouvoirs aux médecins contrôleurs de l'employeur qui pourront ordonner la suspension de vos indemnités journalières alors que seule la Sécu avait ce pouvoir jusqu'à présent. Dans un contexte où le patronat confond arrêt maladie et congés payés, qui peut croire un seul instant que ça ne va pas être utilisé pour forcer les travailleurs malades à reprendre le boulot ? On connaît tous l'adage qui paye commande. Donc un médecin payé par votre patron en moyenne 160 euros par contrôle va faire quoi à votre avis ? C'est pour éviter ces dérives que le contrôle médical avait été constitué. C'est notre rôle du moment, organiser la mobilisation pour la préservation d'un service du contrôle médical indépendant des CEPAM. Cette bataille peut se mener, par exemple, en s'organisant dès à présent contre le plan du gouvernement visant à réduire l'absence au travail. Il faut aussi organiser une campagne pour démonter les fausses informations circulant contre les assurés et les bénéficiaires de l'AME. Stop à la mainmise de l'État sur la Sécu. Stop au pillage des cotisations sociales. Vive la sécurité sociale de 45 et vive la Confédération Force Ouvrière.
Que se prépare David Legrand de l'Action sociale.
Bien, mes chers camarades, je suis mandaté par le syndicat des métaux de Lyon. J'en profite pour associer à mon intervention deux militantes qui sont dans la salle, Catherine et Brigitte. Merci Catherine et Brigitte pour tout ce que vous faites pour les métaux de Lyon. Nous soutenons le bilan confédéral parce qu'il a permis de maintenir une ligne lisible, indépendante, présente dans la négociation et tournée vers les résultats. Et c'est pourquoi nous voterons favorablement le rapport d'activité du Bureau confédéral. Nous sommes réunis aujourd'hui dans un moment important pour notre organisation. Et je veux le dire clairement, nous avons une responsabilité collective, celle de porter une ligne syndicale claire, utile et efficace pour les salariés. Cette ligne, c'est la nôtre, celle d'un syndicalisme réformiste exigeant. Un syndicalisme qui ne se contente pas de dénoncer, mais qui agit. Un syndicalisme qui ne confond pas posture et efficacité. Un syndicalisme qui obtient des résultats concrets. Parce que oui, camarades, la négociation n'est pas un renoncement, c'est un outil, un levier, un moyen de conquérir des droits, d'arracher des garanties et de sécuriser des avancées pour les salariés. Et il faut le redire avec force, le dialogue social n'est pas l'abandon, c'est le moyen d'agir. Quand nous ne sommes pas autour de la table, d'autres y sont à notre place et ils défendent pas forcément les intérêts que nous portons. C'est pourquoi nous refusons les logiques du tout ou rien. Parce que le tout ou rien pour les salariés, c'est souvent rien. Notre responsabilité, c'est d'obtenir des avancées concrètes, parfois partielles, mais réelles. C'est cela le syndicalisme de résultats. Et c'est cela qui fonde notre crédibilité. Mais un syndicat de résultats, c'est aussi un syndicat qui se développe. Nous devons le dire sans détour. La priorité, c'est la syndicalisation. Sans adhérents, il n'y a pas de rapport de force durable. Et c'est cela qui suppose d'aller chercher tous les salariés, y compris là où nous ne sommes pas encore insuffisamment présents. Je pense notamment aux cadres. Camarades, nous devons aussi assumer pleinement notre présence dans les lieux de négociation. Nous n'avons pas vocation à pratiquer la chaise vide. Que ce soit dans les négociations interprofessionnelles, les concertations ou les conférences sociales, notre place est là où se prennent les décisions. Refuser d'y aller par principe, ce serait laisser le champ libre aux autres. Je veux aussi dire un mot essentiel pour notre fédération, la défense de l'industrie. Il n'y a pas de progrès social durable sans industrie forte. Quand l'industrie recule, ce sont des emplois, des qualifications, des territoires entiers qui disparaissent. Et nous devons assumer de défendre toute l'industrie, y compris l'industrie de défense. Défendre cette industrie, ce n'est pas glorifier la guerre, c'est défendre l'emploi, les compétences, la souveraineté industrielle de notre pays. Et nous refusons les oppositions caricaturales. Il ne s'agit pas de choisir entre le social et la défense. Une politique sérieuse doit permettre de défendre les deux. J'aimerais faire un point également sur la charte d'Amiens, qui affirme deux choses qui doivent rester liées. L'indépendance vis-à-vis des partis politiques, religieux et de l'État, la primauté du syndicat.
Éric, faut que tu conclues, mon camarade.
Dans la définition, il me reste une page. Mais la charte d'Amiens ne dit pas que chacun fait ce qu'il veut dans son coin. L'indépendance est collective, pas individuelle. Elle s'exerce dans un cadre commun, décidé démocratiquement. L'indépendance ne signifie pas l'autonomie de chaque structure vis-à-vis de la Confédération. Quand certaines structures rejoignent les appels extérieurs sans validation confédérale, en contradiction avec une ligne définie ou en s'alignant de fait sur des organisations concurrentes.
Tu conclus, Éric, s'il te plaît.
Ne soyons pas seulement en réaction, affirmant notre vision. Une info réformiste indépendante, présente dans le dialogue social, une info qui négocie, qui agit, qui obtient, une info qui se développe, qui recrute, qui s'implante, une info qui défend les salariés,
tous les salariés.
C'est cette ligne que nous devons porter, c'est cette ligne qui est utile,
et
c'est cette ligne qui fera notre force. Vive et faux.
Que se préparent Silva et Rissot, Métaux, Saint-Murzin, Bassintre, Nantes.
Mes camarades, ça marche, oui. Mes camarades, je vous apporte le salut fraternel des syndicats de l'action sociale de l'Aisne, de la Somme et du Nord. D'ailleurs, dans le Nord, nous avons été bourguignons pendant un certain temps. Je monte à cette tribune, mandatée par ces syndicats départementaux, pour faire résonner la voix de ceux qui tiennent le front de la misère au quotidien. Nos métiers sont le dernier rempart face à la paupérisation grandissante et inquiétante de millions de concitoyens. Pourtant, de Dunkerque à Amiens, en passant par Saint-Quentin, la réalité est devenue intenable. Le constat est d'une brutalité sans nom. Ceux qui s'occupent des plus précaires basculent à leur tour dans la précarité. L'inflation n'a fait que jeter une lumière crue sur un naufrage bien plus profond. Si notre convention historique de 1966 fête cette année ses 60 ans, le mal ronge l'intégralité de nos secteurs. Conventionnellement, de la 66 à la 51, de l'aide à domicile, à l'ISFA, etc., le scandale est le même. Aujourd'hui, pratiquement toutes nos grilles de salaire démarrent en dessous du SMIC. C'est une honte absolue. Nous subissons une perte vertigineuse de notre pouvoir d'achat depuis 30 ans. 30 années d'austérité où nos grilles se font engloutir par le tassement. On demande à des professionnels qualifiés d'accepter des classifications écrasées qui réduisent à néant la reconnaissance de leur diplôme et de leur ancienneté. Alors soyons clairs, exiger le seul niveau de l'inflation ne suffira jamais. Nous refusons de payer notre vocation en monnaie de singe. C'est l'exigence du rattrapage d'une dette de 3 décennies accumulées sur le dos des salariés. À ce déclassement s'ajoute le mépris de l'État. Par la lutte, nous avons arraché l'extension des 183 euros du Ségur pour le cœur de nos secteurs. Nous pouvons en être fiers, mais le gouvernement maintient une plaie béante pour tous ceux qu'il laisse sur le bord de la route. Je pense à nos camarades de la branche de l'aide à domicile, les grandes sacrifiées du système. On leur refuse toujours ces 183 euros et le cynisme du ministère vient de franchir un nouveau cap. 3 avenants consécutifs concernant l'aide à domicile viennent d'être purement et simplement refusés à l'agrément. L'État bloque toute négociation, refuse d'étendre le Ségur et pendant ce temps, ses professionnels s'appauvrissent à la pompe. La voiture n'est pas un confort, c'est leur outil de travail. Les laisser se ruiner pour aller travailler est indigne. Force ouvrière n'acceptera jamais le principe de salarié de seconde zone. Et au-delà des salaires, l'essence même de nos droits est attaquée. Sous couvert de modernité, le patronat dans le secteur sanitaire, social et médico-social veut nous imposer la convention collective unique étendue, la fameuse CCUE. Ne soyons pas dupes, c'est une véritable arnaque salariale. Leur objectif n'est pas d'harmoniser, mais de détruire nos classifications, de casser des grilles parodies et de niveler nos droits par le bas. Certains syndicats cèdent, hélas, aux sirènes de la cogestion. Mais dans le Nord, dans la Somme, dans l'Aisne et partout à la FNACFO, nous disons non. Nous refusons la destruction de nos droits. Mes camarades, les batailles qui nous attendent exigent le rapport de force. C'est pourquoi la FNACFO s'inscrit pleinement dans l'appel à la grève partout en France dès le 26 mai. Les syndicats de l'Aisne, de la Somme et du Nord voteront le rapport de trésorerie et d'activité. C'est dans la rue, par la grève et avec une confédération indépendante que nous ferons plier ceux qui cassent l'action sociale. Vive la Fédération nationale de l'action sociale, vive la Confédération générale du travail, Force ouvrière.
Donc, La parole est donnée à Sylvain Hérisson de la métallurgie et que se prépare Céline Cussac du syndicat OSDD 35.
Bonjour mes camarades. Je vous apporte le salut fraternel des camarades du syndicat des métaux de Saint-Nazaire, de Nantes et de Bassindre, ainsi que de la métallurgie EFO 44. Je remercie toutes les équipes EFO pour leur accueil et la bonne organisation de ce congrès confédéral 2026. Je remercie Frédéric Souillot pour ces 4 années qui se sont passées depuis le congrès de Rouen, ainsi qu'à toute son équipe. Tu as maintenu le cap de notre indépendance syndicale très chère à EFO. Mes 3 syndicats m'ont mandaté pour voter favorablement au rapport d'activité et au rapport de trésorerie. Notre syndicat est implanté dans le département le plus beau de France, mais bien après celui de la Côte d'Or. Dans le 44, nous fabriquons des plus beaux paquebots du monde, mais aussi les plus beaux avions qui passent à Saint-Nazaire. En 2025, notre syndicat des métaux de Saint-Nazaire enregistre une progression de 17% avec des timbres jusqu'à 16 500 timbres. Ce n'est pas en ne faisant rien, c'est le travail de tous les camarades qui sont sur le terrain tous les jours. Le bassin d'emploi de Saint-Nazaire est extrêmement florissant côté métallurgie. Un carnet de commandes plein sur 10 ans pour les chantiers de l'Atlantique avec le nouveau porte-avions qui va être fabriqué, le France Libre, en partenariat avec Naval Group. Nous défendons l'industrie, camarades, et aussi celle de la défense, mes camarades. C'est une manière de défendre l'emploi, les compétences et la souveraineté, mais aussi le développement de nos territoires. En 2026, notre syndicat est composé de 17 sections syndicales et de 7 implantations allant de 8 salariés à plus de 4 500. Très souvent, où est implanté EFO, EFO est majoritaire. C'est le travail de tous les camarades. On peut les applaudir. Le terrain, c'est la base pour écouter et comprendre les salariés, les syndiqués. C'est du terrain que nos revendications naissent. Un point sur l'emploi. Le territoire de la Loire-Atlantique compte 45 400 salariés hors intérimaire. 7 salariés sur 10 sont employés sur les établissements de Nantes et Saint-Nazaire. Le bassin nazarien est un terreau d'implantation métallurgie. Nous avons besoin aussi d'un plein emploi. C'est un secteur florissant entre la navale et l'aéronautique. On ne va pas se plaindre en tant que syndicaliste d'avoir un plein emploi. Nous accueillons des personnes qui viennent d'autres départements. D'ailleurs, on a des problèmes de logement. Par contre, on ne reste pas sans rien faire. On va négocier avec les politiques pour avoir des logements, des parkings et des infrastructures. Voici le quotidien au niveau de notre syndicat. Notre priorité, c'est le syndicat des 3 collèges. Nous devons syndiquer, même s'ils n'ont pas les mêmes attentes au niveau des cadres, mais même le même besoin d'être défendu. C'est notre force, notre syndicat, on est le syndicat de tous les salariés. Il faut continuer à se battre pour préserver le paritarisme, très cher à notre organisation syndicale. Pour preuve, dans le 44, on a la valeur du point la plus haute de France dans la métallurgie. C'est pour la prime d'ancienneté, mes camarades. C'est le fruit de belles négociations. Le développement syndical est notre priorité. Le développement syndical, c'est pas un gros mot chez Force ouvrière. S'implanter dans une entreprise, c'est comme la pratique contractuelle. Ça ne se juge pas sur un an, mais sur plusieurs années. Une implantation EFO peut prendre quelques années, mais la pugnacité des militants paye un jour ou l'autre. Le travail paye, mes camarades. Chez Honnête Logistique et Production, la liste EFO a obtenu 62%, mes camarades. On peut les applaudir. À la CNI, Construction Navale Industrielle, l'ADS voulait arrêter, on l'a soutenu, on était allé dans l'entreprise, on a vu les camarades. On a fait une liste, la liste a obtenu 75% mes camarades devant la CGT. Chez Mécachrome, la CFDC pesait 80%. Aux dernières élections, EFO a fait 80% et 20% pour la CFDT, mes camarades. Nos adhérents sont fiers d'être EFO, fiers de nos valeurs républicaines, d'indépendance et de liberté. Le remue-ménage gouvernemental, il est important de rappeler nos valeurs fondamentales, mes camarades.
Clôture, mon camarade.
Chez EFO, on ne fait pas de politique. C'est ce qui nous différencie des autres. Attention, la zone rouge n'est pas loin, mes camarades. Beaucoup de nos adhérents nous rappellent que si FO fait un jour de la politique, ils rendront leur carte. Ce sera une perte sèche pour notre belle organisation. Je suis adhérent FO depuis 23 ans pour son indépendance politique, mes camarades. Mon avis politique ne regarde pas mon syndicat. Notre priorité, c'est la défense des salariés. Nous sommes des syndicalistes, pas des politiques. Notre syndicat remercie la Confédération d'avoir pris position clairement sur le mouvement citoyen et politique bloc autour du 10 septembre. Nous devons rester dans le cadre syndical, mes camarades. Je tiens à remercier tous les copains et copines du syndicat qui me soutiennent dans ma tâche quotidienne. C'est grâce à eux que notre syndicat se porte bien.
Il faut que tu clôtures, mon camarade, il y a beaucoup trop d'interventions.
Je clôture. Vive les métallos, vive le réformiste exigeant et vive notre confédération, mes camarades.
La parole est donnée à Céline Cusac du syndicat OSDD 35 et que se prépare Emmanuel Baudin de la FAGE.
Je vous apporte le salut fraternel des syndicats qui m'ont mandaté, les organismes sociaux, les OSDD 35 et différents syndicats de mon union départementale d'Ille-et-Vilaine. Je voulais remercier toutes ces petites mains qui ont permis l'organisation de ce congrès, tant sur la logistique que sur l'administratif. Un petit clin d'œil particulier pour la Sécu. Donc, pour préparer ce congrès dans mon union départementale, j'ai discuté avec différents adhérents, évidemment, différents syndicats et puis aussi des stagiaires. On a pas mal de jeunes à traverser l'union départementale. La dernière fois que j'étais venue, en tant que défenseur syndical, je vous avais expliqué ce que les ordonnances Macron ont fait dans la défense syndicale de nos salariés. Là, aujourd'hui, je viens aussi en tant que défenseur syndical, mais plus particulièrement vous parler de mes stagiaires. Ces stagiaires que je reçois, j'ai la chance d'aller à l'université, en rencontrer beaucoup chaque année. J'interviens dans les masters droit du travail. On travaille aussi avec l'école de commerce de Rennes. Et on a ces stagiaires qui viennent un mois, deux mois, des fois trois mois à l'UD. Et c'est toujours intéressant, ces jeunes, je parle de jeunes qui ont entre 19 et 25 ans, j'en ai 45, donc je suis plus très jeune. Et discuter avec eux, c'est toujours hyper intéressant, parce qu'ils posent des questions, les questions qui fâchent, ou des questions naïves, mais qui t'obligent à aller dans tes arguments. Et notamment, pour préparer ce congrès, Titouan, mon petit stagiaire, là, en ce moment, me disait, mais congrès, vous allez parler de quoi? Vous allez faire le bilan 2023, en fait, toutes les grèves que vous avez faites et ce qu'on a perdu, en fait, parce qu'on n'a pas gagné cette bagarre, comment vous allez faire pour en parler ensemble? Et effectivement, bah, t'as raison, Titouan, il faut en parler de 2023. Toutes ces grèves, toute cette énergie, toutes ces mobilisations qu'on a fait, tout ce que les syndicats ont fait, et pourtant, on a perdu. Et j'ai un petit peu de mal toujours à entendre que nous avons gagné, que la mobilisation a réussi. Non, on a perdu, clairement, le combat, on l'a perdu. Est-ce que c'est un échec du gouvernement? Non, je dirais que c'est un échec de notre organisation et c'est important d'en faire l'analyse ensemble, de discuter ensemble et de faire cette analyse donc. Donc le bilan, c'est effectivement les manifs, c'est ce que je dis à Titouan, mais c'est aussi d'autres choses. Le bilan, c'est aussi toutes les négociations qui ont été faites. Et là, je suis un peu embêtée sur ce bilan parce que dans les négos, on a effectivement le partage de la valeur. Alors l'association Capital Travail, c'est pas exactement ce que j'attendais de mon syndicat. La dernière négo en date, et qui a choqué aussi Titouan, par exemple, c'est comment nous, notre syndicat, notre confédération, peut signer des droits moins importants pour les chômeurs, pour ceux qui bénéficient d'une rupture conventionnelle. Comment on peut expliquer ça à nos adhérents? Vous êtes sûr que c'était la bonne stratégie? Alors j'entends la négociation collective, c'est extrêmement difficile. Négocier est extrêmement difficile. Mais je pense qu'on a assez de recul pour essayer de s'extraire de situations difficiles et d'envisager les choses différemment. Le congrès, c'est pas seulement un bilan, c'est aussi des perspectives. Et dans les perspectives, malheureusement, j'ai du mal à rêver. Et j'ai du mal à faire rêver tous ces jeunes. On m'a demandé ce que FO pensait de l'intelligence artificielle. Évidemment, c'est facile. L'intelligence artificielle, alors outre le fait qu'on veuille le réguler, on a d'autres choses à dire sur l'intelligence artificielle. D'une part, que c'est la nouvelle étape de l'automatisation de la production et de l'industrialisation. Ça, c'est important de le dire. C'est important de dénoncer que c'est une nouvelle source de profit pour, et des profits colossaux pour le patronat. Et surtout, ça ne peut pas aller sans le discours sur la pollution environnementale. Je regrette qu'à chaque instant, on explique l'intelligence artificielle, c'est pratique, on peut faire des tracts, des affiches, mais c'est surtout une énorme pollution environnementale. Et ça aussi, on doit le dire. Les jeunes nous attendent sur ce discours, sur ces dispositions. Ils veulent savoir ce que FO pense. Ils veulent savoir ce que FO pense de 2027. 2027 arrive, le Congrès, c'est aussi le moment où on doit s'armer, parce qu'on en est là, s'armer politiquement, syndicalement, pour affronter 2027. Il nous faut une confédération solide.
Si tu peux clôturer, ma camarade.
Effectivement.
Plaît.
Et donc, les indices qui nous sont donnés là, en ce moment, ne me rassurent pas. On a des interventions tout près d'un député RN. On a des citations à la tribune qui font une référence aux études trop longues de la sociologie. Je crois que c'est porté par d'autres personnes qui ne sont pas du tout fréquentables. Et ça, c'est pas acceptable. On a d'autres indices. Par exemple, la CFDT et la CGT se sont clairement positionnés contre le RN et toutes les valeurs qu'il porte. Mais pas nous. Nous, on dit qu'on est apolitique, on dit rien. C'est quoi les indices qu'on renvoie à nos adhérents? C'est quoi les indices qu'on renvoie à nos jeunes? Moi, j'ai besoin de rêve. Une dernière chose, et je conclue vraiment là-dessus, j'ai besoin de rêve et c'est possible. Vous avez tous entendu, par exemple, on a fêté les 80 ans de la Sécurité sociale. Vous avez tous entendu que les fauteuils roulants sont remboursés. Qui l'a annoncé? Macron l'a annoncé, mais qui gère la Sécurité sociale?
Absolument, tu clôtures, ma camarade.
Nous gérons la Sécurité sociale. Nous n'étions pas capables d'annoncer nous-mêmes qu'on décidait de rembourser à 100% les fauteuils roulants?
Il faut absolument que tu clôtures, ton temps est bien trop dépassé, on a trop d'interventions.
Je conclue, tu as raison, on a besoin de rêve. Faisons rêver la classe ouvrière. Ils ne savaient pas que c'était impossible et c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Vive la pensée libre et indépendante, vive Force ouvrière, vive l'heure sociale.
Le temps y est trop dépassé. Le temps y est trop dépassé, à une minute et demie, c'est énorme.
Alors, la parole est donnée à Emmanuel Baudin de la FAGE et que se prépare Loïc Boyard, FOCOM 72.
Chers camarades, je vous apporte le salut fraternel des camarades de la Fédération de l'Administration Générale de l'État, Force Ouvrière, la FAGE-FO. Secrétaire général de cette fédération, j'ai cette immense fierté d'avoir réformé avec l'équipe qui m'accompagne au quotidien une fédération qui, sans vouloir faire offense à qui que ce soit, était une fédération malade. Oui, mes camarades, c'est dans l'effort, par les choix stratégiques et bien pensés que nous sommes parvenus à nous développer et parvenir au niveau de syndicalisation jusqu'alors jamais atteint depuis l'existence de notre fédération. Je voudrais, dans un premier temps, saisir ce temps de parole qui m'est donné pour remercier et mettre à l'honneur tous les camarades sans exception qui œuvrent dans leurs structures respectives à la fois pour développer et faire vivre leurs instances et qui contribuent à faire briller les couleurs Force ouvrière au sein de notre fédération. Notre fédération a cette particularité de représenter plusieurs secteurs ministériels et pas des moindres. Les syndicats nationaux de la justice, ceux de l'agriculture, ceux des ministères sociaux avec les secteurs du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, celui de la santé et des solidarités, les camarades qui défendent les personnels France Travail pour la partie publique. Et puis, comment ne pas citer nos camarades qui, certes moins représentés en nombre, défendent et soutiennent au quotidien dans les services toutes les actions menées auprès des personnels de l'administration centrale, du ministère de l'Éducation nationale, de l'Assemblée nationale, du Sénat, du CESE et du groupement des moyens aériens de la sécurité civile. La tâche n'est pas facile au quotidien face au rouleau compresseur que nous imposent nos dirigeants. Mais c'est dans cet esprit d'entraide, de solidarité et de fraternité que nous mettons et que nous mettrons à mal tous les coups durs que voudraient nous infliger nos gouvernances. C'est par ce travail de tous les instants que nous avons suscité aussi l'envie d'adhérer à d'autres fédérations de deux syndicats nationaux qui sont revenus rejoindre nos rangs. Il est et elles sont aujourd'hui ici à Dijon. Bravo et merci pour vous tous, mes camarades. Durant ce mandat, nous avons compris qu'il était important de remettre un lien avec les fédérations voisines, certes, mais pas seulement. Je puis vous assurer que l'engagement est pris de remettre davantage de liens avec les unions départementales, avec qui, de toute évidence, il faut travailler et les assurer de notre soutien autant que faire se peut, et bien évidemment dans la mesure de nos moyens.
S'il vous plaît, mes camarades, si vous pouvez respecter le temps de parole du camarade, parce que c'est inaudible à la tribune.
Des liens forts et déjà existants avec notre confédération se sont renforcés durant cette mandature et le contexte économique et social a participé à consolider considérablement nos liens. Nous aurons été de toutes les batailles dans les services, certes, mais aussi et surtout dans la rue. Alors même où nos statuts sont attaqués, alors même où les personnels de la fonction publique sont maltraités comme jamais, casse du statut général de la fonction publique, réduction de à tout va des effectifs, aucune revalorisation indemnitaire pour les fonctionnaires en perspective, baisse du pouvoir d'achat, remise en cause des régimes de retraite, sont autant de mépris affichés envers nos collègues et camarades et d'arguments tangibles qui doivent nous faire réfléchir et surtout prendre conscience que les batailles seront de toute évidence à mener. Merci pour la confiance et le soutien apporté par tous les membres de la Confédération durant ce mandat. Je suis mandaté par nos instances pour voter pour le rapport moral du secrétaire général, tout comme je le suis pour voter favorablement et sans équivoque le rapport financier. Avant de conclure mon propos, j'en appelle aujourd'hui devant le Congrès pour rappeler et surtout alerter les plus grands nombres d'entre vous. Les échéances de décembre prochain seront un tournant majeur pour l'avenir de Force ouvrière dans les trois versions de la fonction publique. Nous ne saurions manquer ce rendez-vous. Pour ce qui nous concerne, nous avons engagé depuis déjà l'an dernier à la FAGE des moyens exceptionnels auprès des structures, tant sur le plan financier que humain, pour garantir à notre humble niveau notre première place au sein de la fonction publique d'État, tant en métropole qu'auprès de nos compatriotes des DOM-TOM. Nous continuerons à le faire chaque jour au sein des structures, être présents sur le terrain et montrer au personnel l'image
d'un syndicaliste
libre, indépendant et les rassurer face à un contexte économique et géopolitique anxiogène doit être notre priorité quotidienne. Je vous souhaite à tous et à tous un excellent congrès. Merci à vous, mes camarades. Vive le congrès Force ouvrière, vive Force ouvrière.
La parole est donnée à Loïc Boyard, FOCOM 72, et que se prépare Ariel Bonnefoy, Fédération de la pharmacie.
Camarades, je vous apporte le salut fraternel des camarades de FOCOM 72. Nous voterons le rapport d'activité et de trésorerie. Mes camarades, aujourd'hui, on ne se rassemble pas pour faire la figuration. On se rassemble pour rappeler une vérité simple, une vérité essentielle, une vérité que certains voudraient nous faire oublier. Le syndicat n'appartient qu'aux travailleurs. Et cette vérité, elle est inscrite noir sur blanc dans notre histoire. Camarades, dans la charte d'Amiens, une charte qui n'est pas un vieux texte poussiéreux, comme certains pourraient nous le faire croire. Une charte qui est une arme, une boussole, un engagement. Que nous dit cette charte ? Camarades, elle dit que le syndicat est indépendant. Indépendant des partis politiques, indépendant de l'État, indépendant du patronat, évidemment, mais surtout indépendant pour défendre sans compromis les intérêts des travailleurs. Camarades, soyons clairs. Dès que le syndicat devient le relais d'un parti, il cesse d'être la voix des travailleurs. Il devient un outil, un instrument, et ça, on ne peut pas l'accepter dans notre maison. Nous, notre rôle, ce n'est pas de faire élire qui que ce soit. Notre rôle, ce n'est pas de distribuer des consignes de vote. Notre rôle, c'est de lutter, de revendiquer, d'arracher des droits. Et ces droits, mes camarades, ils ne sont jamais tombés du ciel. Les congés payés, la réduction du temps de travail, les hausses de salaire, ce n'est pas un cadeau. C'est le fruit de la lutte collective, de la grève, du rapport de force. Et ce rapport de force, mes camarades, il ne peut exister que si nous sommes unis et indépendants. Et on ne peut être unis que si le syndicat reste un lieu où tous les travailleurs se retrouvent, quelles que soient leurs opinions politiques, leurs croyances et leur parcours. C'est ça la force de l'indépendance. Camarades, oui, nos luttes sont politiques. Quand on se bat pour les salaires, c'est politique. Quand on se bat contre les licenciements, c'est politique. Quand on se bat pour la dignité au travail, c'est politique. Mais ce n'est pas la politique des partis, c'est la politique des travailleurs. Et aujourd'hui, mes camarades, il faut le dire clairement, cette indépendance est attaquée. Nous ne pouvons défendre telle ou telle guerre ou tel État contre un autre. Les camarades de la Sarthe n'en peuvent plus de ces prises de position ultra-politisées de certaines fédérations et certaines UD. Ils sont chez FO pour cette indépendance. Vis-à-vis de tous les partis politiques et bien entendu contre toutes les guerres et pas certaines bien ciblées. Camarades, on veut nous diviser, on veut nous récupérer, on veut nous enfermer. Effectivement, certains voudraient que le syndicat choisisse un camp électoral. D'autres voudraient qu'il se taise pour ne pas déranger. Mais nous, camarades, on ne se taira pas. Parce que notre camp, il est clair, c'est celui des travailleurs. Parce que notre mandat, il est clair, défendre les intérêts collectifs et individuels des travailleurs. Et ça, mes camarades, ça ne se fera pas sans nous. Ça se fera dans la lutte, dans l'organisation, dans la solidarité et sur le terrain des travailleurs. Camarades, restons fidèles à notre histoire, restons fidèles à nos principes, refusons toutes les pressions, toutes les récupérations des partis politiques, philosophiques. Faisons vivre un syndicalisme de combat, un syndicalisme de classe, un syndicalisme indépendant. Parce que sans indépendance, il n'y a pas de confiance. Sans confiance, il n'y a pas de mobilisation. Et sans mobilisation, il n'y a pas de victoire. Camarades, relevons la tête, organisons-nous, luttons ensemble. Et faisons vivre ici et maintenant la force des travailleurs. Vive la lutte, vive la solidarité, vive le syndicalisme libre et indépendant, vive Force ouvrière.
La parole est donnée à Ariel Bonnefoy, Fédération de la pharmacie, que se prépare Laurent Boulanger, Force ouvrière des supermarchés Market.
Chers camarades, je vous adresse le salut fraternel de toute la branche de la pharmacie d'officine. Mon intervention portera essentiellement sur 4 points. L'accès aux soins, l'évolution des métiers de la pharmacie d'officine, la situation actuelle des salariés, le combat et la place de FO Pharmacie. Aujourd'hui, le constat est sans appel. Nous faisons face à une désertification médicale croissante qui fragilise l'accès aux soins de l'ensemble du territoire. Dans le même temps, le maillage pharmaceutique se dégrade. Fermeture d'officines, rachats, pression économique accrue, concurrence des grandes surfaces et développement de la vente en ligne. Et plus largement, l'ensemble des métiers de la santé est sous tension, confronté à une demande de soins toujours plus forte, avec des patients de plus en plus nombreux, souvent fragiles, vieillissants et atteints de pathologies multiples. Face à cette réalité, la pharmacie d'officine a profondément évolué. Elle n'est plus seulement un lieu de délivrance du médicament, elle est devenue un acteur de proximité incontournable, un lieu d'accueil, d'écoute, d'accompagnement et bien souvent un premier recours pour les patients. Les métiers, eux aussi, sont en pleine transformation. De nouvelles missions ont été confiées aux équipes officinales. Nous parlons ici de vaccination, des actes de prévention, des tests de dépistage, des entretiens pharmaceutiques, l'accompagnement de patients polymédiqués ou encore le suivi de publics spécifiques comme les femmes enceintes ou les patients sous traitement opioïde. À cela s'ajoute une coopération renforcée avec les autres professionnels de santé dans un objectif clair : améliorer la qualité des soins et sécuriser les parcours patients. Mais cette évolution a un prix. Le métier de préparateur en pharmacie s'enrichit, se complexifie et devient plus responsabilisant. Sans reconnaissance à la hauteur. Et c'est là toute la problématique. Aujourd'hui, nous faisons face à un métier en tension. Pourquoi ? Parce que la reconnaissance professionnelle est insuffisante, les rémunérations ne sont pas à la hauteur des responsabilités, le métier reste trop souvent méconnu, le plus connu des métiers pas connus. Les conditions de travail sont exigeantes, horaires tardifs, stations debout, prolongées. Résultat, les titulaires peinent à recruter. Les préparateurs se détournent du métier et les effectifs dans les centres, dans les CFA, les centres de formation diminuent. Face à cette situation, Force ouvrière prend ses responsabilités. FO est aujourd'hui, et depuis la loi sur la représentativité, nous avons toujours été premiers. Aujourd'hui encore, FO est la première organisation syndicale de la branche de la pharmacie, avec une représentativité en forte progression, avec un score aux dernières élections TPE de 33,49%. À souligner, notre branche a une particularité forte, presque unique. 93,3% des entreprises sont des TPE. La branche occupe 120 000 salariés. Chez nous, le dialogue social ne se fait pas dans des structures organisées avec des directions RH, mais directement dans les officines, au comptoir, au cœur du quotidien. Chez nous, les militants FO de la pharmacie ne sont pas des observateurs. Ils sont tous issus du métier préparateur, pharmacien adjoint, salarié de l'officine. Ils connaissent la réalité, ils parlent le même langage et c'est pour cela qu'ils sont crédibles. C'est aussi pour cela que FO est aujourd'hui écouté, reconnu dans toute la profession. Nous sommes largement présents dans les revues professionnelles, nous intervenons à la radio et surtout nous avons su prendre le virage du numérique. Nos réseaux sociaux sont devenus un véritable outil syndical. Nous travaillons aujourd'hui sur le développement de la plateforme Link.
Il faut absolument que tu clôtures, ma camarade.
Et la mise en place de formation vidéo. Parce que le monde du travail évolue et que le syndicalisme doit évoluer avec lui. Mais une chose ne change pas. Notre représentativité, notre légitimité, oui, qui font notre force. Notre force, ce sont les femmes et les hommes qui s'engagent. Alors oui, la représentativité est un chiffre, mais derrière ce chiffre, il y a le terrain, l'engagement, la confiance. Et cette confiance, nous devons continuer à la mériter. Je voterai, mandaté par 5 syndicats, je voterai le rapport confédéral ainsi que le rapport de trésorerie. Je vous remercie. Vive la Fédération de la pharmacie et vive la Fédération Force ouvrière.
Alors mes camarades, il faut absolument respecter le temps de parole parce qu'en fait on accumule du temps et on a encore beaucoup d'interventions. Si vous pouvez essayer de faire en sorte de respecter les 4 minutes, merci. Donc la parole est donnée à Laurent Boulanger. Merci. Et que se prépare après Gabriel Gaudy du HCRCT Paris. Et patiente encore un petit peu, c'est bientôt la pause.
Chers camarades, vous avez bonjour fraternel du syndicat Force ouvrière des supermarchés Carrefour Market.
10h45.
C'est un honneur de prendre la parole devant ce congrès confédéral. Si je monte à la tribune aujourd'hui, c'est pour parler du terrain, pour porter la parole des salariés, pour défendre les femmes et les hommes des Carrefour Market que nous représentons. L'heure est préoccupante chez Carrefour Market. La semaine dernière, la direction a annoncé le passage de 36 supermarchés supplémentaires à la location gérance pour 2026. Plus de 1720 salariés quitteront le mode intégré cette année. Avec ce nouveau passage, nous allons tomber sous la barre des 150 magasins intégrés pour la fin d'année, alors que l'enseigne compte plus de 1000 magasins. Le PDG Carrefour a aussi annoncé dans son plan d'entreprise le passage de 40 magasins supplémentaires à location gérance pour l'année 2026. À cette cadence, dans 4 ans, le modèle intégré aura complètement disparu chez Carrefour Market. La location gérance chez Carrefour Market a commencé en 2010. Après plusieurs expertises, grèves, rien n'a réussi à arrêter la machine Carrefour. En 2018, Force ouvrière a fait un choix clair d'imposer à la direction Carrefour, par la voie de la négociation, une clause sociale pour les salariés susceptibles de passer en location en gérance ou en franchise. Notre objectif était simple, améliorer de peu les dispositifs des magasins en location, gérance ou en franchise. Nous avons négocié, revendiqué cet accord pour préserver une partie des acquis sociaux. Une première dans la grande distribution. Face à l'occasion de la location gérance de nos magasins en 2026, FO Carrefour a imposé à la direction de rouvrir un avenant à la clause sociale pour l'améliorer. Nous avons tenu gain de cause sur un grand nombre de nos revendications. Je tiens à remercier particulièrement le secrétaire général de la FGTAFO, le secrétaire de notre confédération ainsi que leurs équipes pour leur soutien et leur aide dans ce dossier. Merci également pour votre disponibilité. Le syndicat national Force ouvrière des Carrefour Supermarché Market valide le rapport d'activité de trésorerie. Je vous remercie pour votre écoute. Bonne fin de journée à tous. Vive la GTAFO, vive la Confédération, vive Force ouvrière.
La parole est donnée à Gabriel Gaudy et que se prépare Stéphane Salmon.
Salut. Bien, mes chers camarades, bonjour. Je suis mandaté par mes camarades pour voter les deux rapports d'activité et de trésorerie. Je suis aussi mandaté par mes camarades pour développer les positions qui sont celles que nous portons au niveau parisien. Tout d'abord sur la guerre. Même si cela a beaucoup fait parler au cours de la dernière période, mes chers camarades, nous n'avons jamais été autrement que sur des positions qui sont celles qui ont toujours été développées par nos secrétaires généraux, en partant de Léon Jouot jusqu'aujourd'hui Fred Souillot. Ils portent les mêmes positions. Ils ont développé au cours de ces dernières périodes, de ces années qui ont passé, au fil des guerres que nous avons connues, que les guerres sont finalement cause des morts civiles, de femmes, d'enfants qui meurent sous les bombardements pour les avantages des marchands de canons. C'est ce qui a toujours été développé par les secrétaires généraux de notre organisation. Nous n'échappons pas à ces choses encore aujourd'hui, mes chers camarades. Ces guerres en Ukraine, en Russie, c'est bien les travailleurs qui en subissent les premiers les conséquences. Au Liban, en Iran, ce sont bien les populations civiles, les travailleurs, qui en subissent les conséquences. Et ce sont les raisons pour lesquelles nous nous sommes mobilisés au cours des dernières périodes. Alors, mes chers camarades, il y a le reste également dans tout cela. La préparation aux guerres, les va-t-en-guerre qui nous représentent aujourd'hui, tels que le général Mandon porté par le président de la République qui affirmait qu'il fallait se préparer à perdre nos enfants et nos petits-enfants et à aller au combat, au risque également de causer des problèmes économiques à notre pays et à toutes les populations. Mes chers camarades, ils l'ont affirmé à diverses reprises et nous les avons combattus. Mes chers camarades, les efforts de guerre sont bien ceux qui, au cours de la dernière période, ont eu des répercussions considérables sur l'hôpital, avec la disparition de services d'urgence entiers. C'est le cas également pour les hôpitaux de proximité qui ont fermé. C'est également la suppression de quantité de postes qui ont fait, mes chers camarades, que les fonds allaient à la guerre et non pas dans ces secteurs. Mes chers camarades, cela a pesé sur l'école très fortement. Des centaines d'écoles ou des centaines de classes fermées en région parisienne, encore plus sur le plan national, avec des milliers d'emplois d'enseignants supprimés également. C'est cela également qu'on nous impose dans le cadre de l'effort de guerre. Et puis, mes chers camarades, c'est vrai également pour la sécurité sociale, avec la volonté aujourd'hui de fermer les centres de soins, de faire disparaître des structures entières de régions, comme c'est le cas au niveau de la région parisienne, avec la CRAMIF. C'est cela, mes chers camarades, l'effort de guerre et ses conséquences, bien évidemment, sur les services publics. Services publics dénationalisés, services publics au service de certains, mais pas de la population de notre pays, d'une façon générale. Mes chers camarades, les positions que nous avons développées également dans les dernières périodes...
Il faut que tu clôtures, mon camarade.
...s'opposent à la loi Yadan. Celle qui empêche l'expression, celle qui ne permet plus qu'on puisse porter des jugements sur un gouvernement qui est notamment celui de Netanyahou et qui a entraîné tout ce que j'ai développé contre l'Iran.
Il faut que tu clôtures, mon camarade.
Contre l'Iran, contre le Liban, et qui nous amène à constater que c'est bien cela qui est visé aujourd'hui en nous punissant si nous avons des actes de et des répercussions sur ce qui est déclaré par ce gouvernement. Mes chers camarades, c'est aussi la possibilité de remettre en cause la représentativité syndicale dans les prochaines périodes que cette loi Yadan, sur laquelle nous avons manifesté, nous nous sommes mobilisés et nous nous sommes battus. Alors, mes chers camarades,
si tu peux clôturer, s'il te plaît, Gabriel.
Alors, mes chers camarades, il y a aussi le problème des retraites, avec tous ces coquins qui s'allient les uns avec les autres pour soi-disant suspendre les pensions, alors que suspendre la loi, alors que le président de la République a annoncé que ça n'était qu'un simple report. Mes chers camarades, c'est se foutre du monde que de pratiquer des politiques de cette nature. Je vais en terminer parce que je sais que je dépasse mon temps.
Oui.
Mes chers camarades, je vous laisse simplement dire un mot sur lequel chacun pourra réfléchir. C'est André Bergeron qui s'exprimait comme cela dans le cadre de l'assurance chômage et il indiquait que nous étions pour faire en sorte qu'il y ait des progressions et non pas de régressions.
Gabriel, il faut absolument
que tu clôtures. J'attire votre attention sur cet élément-là, mes chers camarades.
Gabriel, tu vas me forcer à couper ton micro. Il faut que tu clôtures. Il faut absolument que tu clôtures.
Je termine en vous indiquant que le 1er mai, à Paris, nous défilerons et nous manifesterons seuls, car les revendications que nous portons, celles que j'ai pu développer en toute petite partie, ne sont pas reprises, ou en tous les cas, les camarades de la CGT et d'autres ne veulent pas les reprendre. Leurs revendications sont floues et nous ne les acceptons pas. Malgré l'unité qui, pendant 30 ans, nous a permis de faire des 1er mai en commun et dans l'unité, eh bien, mes chers camarades, nous serons seuls cette fois-ci et nous en sommes fiers. Vive la Confédération Générale du Travail, Force Ouvrière.
Alors, que se prépare pour après la pause Elodie, papa du SDAS 49. Il y a une pause jusqu'à 11h, mes camarades.
C'est bon ?